L'Europe en direct sur Graffiti, c'est avec le service des relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon. Chaque semaine, on découvre quelques anecdotes ou quelques astuces à connaître autour de l'Union européenne. Et on le fait aujourd'hui en compagnie de Flora et Noé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va parler emploi aujourd'hui, Flora.
Oui, alors avez-vous déjà pensé, par exemple, à aller travailler à l'étranger? Ou vous êtes-vous déjà renseigné sur les modalités et opportunités qui y sont liées? Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, car beaucoup de réponses à vos questions sont ici, dans votre chronique Europe d'aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que le dispositif européen de garantie renforcée pour la jeunesse vous parle? Ou encore le portail européen EURES pour la mobilité de l'emploi en Union européenne?
Moi, ça ne me parle pas du tout, ça consiste en quoi?
Alors, c'est très pratique. Le dispositif européen de garantie renforcée pour la jeunesse a pour but d'aider les jeunes de 16 à 30 ans à acquérir ou renforcer leurs compétences afin qu'ils s'insèrent plus facilement dans le monde du travail dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études ou la perte de leur emploi. Il peut prendre la forme d'une formation pratique, d'une orientation professionnelle ou encore d'un stage. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tous les pays de l'Union européenne se sont engagés à respecter cette garantie renforcée pour la jeunesse depuis 2020. Déjà plus de 24 millions de jeunes qui se sont inscrits dans des dispositifs de garantie renforcée pour la jeunesse ont décroché un emploi ou entamé une formation continue, un apprentissage ou un stage.
Et j'aimerais en savoir un peu plus aussi sur l'autre outil dont tu nous as parlé en introduction. Explique-nous ce qu'est le portail EURES.
Alors oui, pas de souci. Le portail européen EURES pour la mobilité de l'emploi en Union européenne, c'est avant tout un service qui aide tout citoyen européen, quel que soit son âge, à trouver un emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre pays de l'Union européenne. Il permet aussi aux employeurs de trouver des candidats. Pour schématiser, on peut dire que c'est la méga agence de l'emploi européenne, accessible dans les langues, donc dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, depuis internet sur www.eures.europa.eu, où les employeurs publient leurs offres et leurs demandes d'emploi ou de stage, et ils peuvent y répondre, par exemple. Mais c'est aussi une mine d'informations pour y trouver la situation, la situation du marché de l'emploi, donc les cadres juridiques, les modalités administratives, des liens aussi fiables des sites internet, et plus encore, tout est mis à jour régulièrement par les agences nationales de l'emploi de chaque pays de l'Union européenne. À titre d'exemple, au moment où on se parle, il y a plus de 2,7 millions d'offres disponibles sur ce site EURES. Donc ces deux outils facilitent l'ouverture à l'emploi pour les citoyens de l'Union européenne. On pourrait aussi dire que le marché du travail est plus grand que jamais grâce à l'ouverture des frontières entre les 27 pays de l'Union européenne. Des opportunités sont à saisir, il ne faut pas les louper.
C'est vrai que l'Union européenne elle doit donner donc accès à un grand nombre d'emplois. Combien de citoyens vont travailler hors de leur pays au sein de l'Union européenne?
En 2026, selon les sources de l'association Mission opérationnelle transfrontalière, créée par le gouvernement français, près de 500 000 travailleurs français traversent la frontière pour aller travailler dans les pays limitrophes. Travailler à l'étranger se révèle être très avantageux économiquement parlant pour ceux qui vont travailler en Suisse ou au Luxembourg. Dans ces deux pays, le salaire est multiplié par deux par rapport à la France. Dans l'autre sens, les travailleurs frontaliers sont bien moins nombreux à traverser la frontière vers la France en raison d'une différence de salaire qui est moins marquée. De plus, certains types de main-d'œuvre sont demandés pour certains secteurs, comme par exemple la Suisse, qui va se retrouver en manque de soignants d'ici 2030. Si on revient sur des chiffres de 2024 de la Commission européenne, environ 1,87 million de travailleurs transfrontaliers ont été déclarés dans l'Union européenne. Ce chiffre avait augmenté de 2% par rapport à l'année précédente. Et à ce sujet, Noé, quelles sont les facilités pour un citoyen européen qui souhaite aller travailler dans un autre pays de l'Union européenne?
Alors, tout d'abord, il faut rappeler que cette mobilité, elle est possible grâce au principe de liberté de circulation des travailleurs au sein de l'espace de l'Union européenne. Par exemple, en tant que citoyen titulaire d'une nationalité d'un des 27 pays de l'UE, vous n'avez pas besoin de permis de travail pour travailler donc dans un autre pays membre. Vous disposez également des mêmes droits à l'accès à l'emploi que les travailleurs du pays européen d'accueil, vous serez rémunéré de la même façon et vous aurez accès à la même sécurité sociale une fois enregistré. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais ça permet de constater la facilité avec laquelle tout citoyen européen peut partir travailler dans toute l'Europe.
Et au niveau de la vie quotidienne dans un autre pays de l'Union européenne, quels sont les autres avantages ?
Très bonne question. Alors justement, quand on bouge au sein de l'Union européenne, eh bien on fait face à beaucoup moins de difficultés que si on s'expatrie dans un pays en dehors de l'UE. Par exemple, tu peux oublier les frais bancaires supplémentaires très coûteux pour les retraits ou les transferts d'argent dans une zone hors euro. Et en plus, comme il y a la monnaie unique au sein de certains pays de l'Union européenne, qu'on appelle donc l'euro, eh bien il n'y a pas de frais de change non plus. Au niveau du téléphone, depuis 1997, les frais d'itinérance au sein de l'Union européenne entre opérateurs européens ont été supprimés par la Commission européenne, ce qui signifie qu'on utilise notre téléphone au même prix que chez soi. Et même pour regarder une série avec son abonnement, ce n'est pas non plus un problème, puisque nos abonnements numériques sont accessibles où que l'on soit dans l'Union européenne. Et pour finir, le plus important, je dirais, eh bien, on peut parler de la carte européenne d'assurance maladie. Donc, il s'agit d'une carte qui est délivrée gratuitement, je le rappelle, et qui vous permet de bénéficier des soins de santé publique dont vous auriez besoin lors d'un séjour temporaire dans l'un des 27 États membres de l'Union européenne. Et donc, cette carte européenne d'assurance maladie, elle permet de ne pas avoir à avancer les frais ou, si vous devez payer, vous gardez les factures et par la suite, vous les envoyez à la CPAM et vous êtes garantie d'être remboursée selon votre taux de remboursement habituel. Cette carte, en fait, elle est la preuve que vous êtes assuré dans un pays de l'Union européenne et elle est délivrée par l'organisme d'assurance maladie de votre pays.
C'est vrai que tous ces dispositifs mis en place sont très intéressants, mais pour ceux qui veulent aller travailler ailleurs, mais qui ne veulent pas faire beaucoup de paperasse, par exemple, c'est hyper intéressant. Et qu'en est-il, par contre, de l'égalité femmes-hommes sur le marché de l'emploi dans l'Union européenne ?
Alors la réponse elle est assez mitigée parce qu'il est vrai que même si l'Union européenne elle progresse sur cette voie, on constate tout de même que les femmes gagnent toujours 12% de moins que les hommes en moyenne et que les hommes occupent aussi des postes qui sont plus haut placés, notamment selon le site de la Commission européenne. Alors les moins bons élèves dans le domaine c'est Chypre, la Croatie et l'Italie qui sont les pays qui comptent le moins de femmes à des postes d'encadrement. Et donc la Commission européenne elle essaie cependant de pallier à cette inégalité en mettant en place ce qu'on appelle des stratégies européennes. Elle a notamment présenté une nouvelle feuille de route appelée la feuille de route pour les droits des femmes pour les années 2026 à 2030 afin donc de prolonger ses efforts. Et parmi les quelques priorités fixées sur cette dernière feuille de route, eh bien, on retrouve notamment garantir l'égalité salariale, des conditions de travail équitables et la lutte contre le sexisme entre autres.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir donné toutes ces informations autour de l'emploi dans l'UE. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Europe en direct. À bientôt.